Le 1er octobre 1680 mourait Pierre-Paul Riquet, l'architecte du canal du Midi.
Pierre-Paul Riquet, l'incroyable aventure du canal des deux mers, aujourd'hui appelé canal du Midi. C'est le riche ouvrage de l'invité de Radio Présence ce matin, Monique Dolin du Fresnel. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez dirigé pendant de nombreuses années la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux. Vous étiez aussi chargée d'enseignement en culture générale et vous êtes parmi à peu près 25 000 autres personnes, une des descendantes de Pierre-Paul Riquet. On va parler évidemment un petit peu de cet homme de génie, mais puisqu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de sa mort, est-ce que vous pourriez nous dire, madame Dolin du Fresnel, comment Pierre-Paul Riquet est mort?
Ah, il est mort, on pense que, il est mort à 71 ans, usé par le chantier qui a été le canal du Midi, mais probablement d'une crise de paludisme, puisque donc il était fermier des gabelles, et non pas, comme je le vois souvent, entrepreneur ou hydraulicien, il s'intéressait à ça, mais il est mort de maladie, il est mort de ce qu'on appelait la fièvre quarte, c'est-à-dire probablement de paludisme, probablement.
Alors on va parler évidemment de cet homme de génie, il est né à Béziers en 1609, il s'est par la suite installé à Castres, puis Mirepoix, Revel, Toulouse et au château de Beaurepaud dans le Lauragais. Il était, comme vous le disiez, fermier général pour le Languedoc et le Roussillon et il a entrepris la construction de cet immense chantier de canal entre la Méditerranée et l'Atlantique alors qu'il pouvait imaginer qu'il n'en verrait pas le bout de son vivant. On savait que ce serait un long projet. Qu'est-ce qui l'a incité à se lancer dans un tel projet ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que, donc, comme j'ai dit, il était fermier des gabelles et la récupération du sel dans les salins de la Méditerranée se faisait de manière assez difficile puisqu'il n'y avait qu'un moyen de transport qui était le chemin de la poste, ce qu'on appelait le chemin de la poste qui allait de Toulouse à la Méditerranée et lui, il voulait créer un système beaucoup plus pratique pour amener le sel. Et puis, il voulait aussi laisser quelque chose à ses enfants. Et ça a été le canal du Midi qui a appartenu ensuite à ses enfants et à ses descendants jusqu'en 1898, quand même.
Quand même, oui. Il y a eu en 1660 une grande sécheresse dans tout le sud de la France et notamment dans le Languedoc. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Riquet a souhaité la construction du canal des deux mers ?
Pas simplement, on va dire que c'est une raison secondaire, mais parce que le Languedoc avait quand même beaucoup de potentiel, comme on dirait maintenant, de potentiel économique, et lui, il se rendait compte que c'était sous-employé, donc ça a été aussi sa manière, en tant qu'entrepreneur, de développer l'économie du Languedoc, d'autant qu'il y avait quand même un ministre à Paris, enfin à Versailles, ou à Paris d'abord, au Louvre, qui était Colbert, qui a développé le plus possible l'économie du royaume.
Et alors effectivement, vous parlez de Colbert, puisque nous sommes en 1662, Riquet peut s'appuyer sur le soutien de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur de Bourlemont, qui en fait le met en contact avec Colbert, le ministre de Louis XIV. Comment se matérialise ce soutien ?
D'abord, Riquet a invité Monseigneur de Bourlemont chez lui à Bonrepos pour lui montrer son projet et il aurait fait construire dans son parc, on va dire ce qu'on appelle la machine hydraulique, une machine hydraulique, c'est-à-dire un mini canal avec une écluse, dit-on, parce qu'on a du mal à retrouver les vestiges de ce qu'il a fait construire. Mais ce qu'il voulait, c'était montrer son projet à Monseigneur de Bourlemont. Et il se trouve que Monseigneur de Bourlemont était en même temps le président des États du Languedoc. Or, les États du Languedoc, le Languedoc étant un pays d'État, c'est-à-dire que c'était les représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-État qui votaient l'impôt pour le roi, c'était important de passer par cet archevêque. Il était archevêque de Toulouse. Le président des États du Languedoc, c'était l'archevêque de Narbonne. Or, l'archevêque de Narbonne, à l'époque, avait été le frère de Nicolas Fouquet. Donc, c'est l'autre archevêque, donc celui de Toulouse, qui a repris la présidence des États. Et c'est comme cela que Riquet s'est dit, c'est celui-là qui va pouvoir me faire introduire auprès du roi, non, parce que il était jeune, mais surtout de Colbert.
Et quel accueil a-t-il reçu de ce Colbert ?
Ah mais Colbert était intéressé parce que bon, il avait toujours dans l'idée, c'était quand même un grand serviteur du royaume, Colbert. Il avait dans l'idée aussi de développer l'économie du Languedoc. Et le projet de Riquet lui a plu. Après, et le roi d'ailleurs n'a pas mis trop de temps pour signer l'acte qui permettait de démarrer les travaux. Mais il fallait d'abord évidemment qu'il y ait des essais, qu'il y ait des envoyés de Colbert pour voir si sur le terrain c'était possible, ce qui a été fait.
Oui, et c'était quand même le deuxième chantier le plus important du royaume de France après le château de Versailles. Donc c'est vrai que ça nécessitait quand même une étude approfondie avant de se lancer dans un tel chantier. 241 km de long, 20 mètres de large, 2 mètres en moyenne de profondeur. Oui. C'est un chantier titanesque.
Oui, mais d'autant qu'au départ, Riquet avait une idée beaucoup plus importante de son chantier, parce qu'il voulait faire vraiment le canal des deux mers, c'est-à-dire aller de l'Atlantique à la Méditerranée, avec un canal beaucoup plus large, parce que l'idée était de faire passer les galères royales de l'Atlantique à la Méditerranée pour éviter de contourner l'Espagne, Gibraltar, et d'être attaqué par les barbaresques, comme on disait à l'époque. Donc c'était un chantier beaucoup plus important. Après, comme on dit maintenant, il a réduit un peu la voilure de manière à ce que entre Toulouse et la Méditerranée, déjà, il y ait cette voie d'eau.
Et donc réduit la voilure pour des raisons financières, on imagine ?
Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est de, j'allais dire de tout temps, mais oui c'est absolument.
Ça. Et donc les galères n'ont pas pu passer et étaient priées de contourner comme habituellement.
Oui. Et puis, je ne vois pas trop d'ailleurs comment les galères seraient passées, puisqu'il y a quand même des mâts et il y a des ponts. Donc,
oui. Je ne sais pas trop comment les choses seraient passées. Oui, oui. Alors, vous parliez effectivement de cette nécessité financière, mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés, notamment des difficultés techniques et des difficultés politiques. Lesquelles sont-elles et comment Pierre-Paul Riquet va les dépasser ?
Alors, on va d'abord parler des difficultés, j'allais dire, politico-financières, puisque le canal a été payé par trois entités, le roi, donc d'une part le roi, d'autre part les États, en fait, du Languedoc quand même, qui ont mis beaucoup d'argent, et puis Riquet, de sa poche, sa fortune personnelle. Et le roi, Louis XIV, au même moment, était en guerre un peu partout, donc entre le prix, le coût plus exactement du château de Versailles et les guerres de Louis XIV, Riquet a eu beaucoup de mal à se faire payer par le roi et par les États du Languedoc qui se faisaient tirer l'oreille pour verser de l'argent. Donc il était toujours en train de réclamer de l'argent pour pouvoir payer les ouvriers, payer les matériaux, parce qu'il fallait les payer tout de suite, il fallait les payer 3 ans après. Donc ça c'est un premier problème. Et l'autre problème, c'est effectivement des difficultés techniques, parce que on avait, vu repéré l'endroit où allait passer le canal, mais il y a eu des endroits comme par exemple la montagne d'Ancérune, à côté de Colombier, où il a fallu, l'idée était de contourner cette petite montagne, mais Riquet lui a décidé de faire un tunnel dessous, qui est le tunnel du Malpas, et donc, tout le long du canal, il y a comme ça des réalisations extraordinaires pour l'époque, dues à la pugnacité de Riquet, qui voulait arriver... Lui, il voulait que le canal soit terminé, j'allais dire, de son vivant.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Ce sont ses fils qui ont terminé le canal.
Oui, c'est ça. Donc, des difficultés politico-financières, des difficultés techniques auxquelles, finalement, qu'il a surmontées, et grâce à son caractère.
Oui, et d'ailleurs c'est un peu curieux parce que l'espérance de vie sous Louis XIV est à peu près de 47 ans. Lui, il s'est mis très tardivement à la construction de ce canal, comme vous l'avez dit dans la présentation. Il aurait pu rester tranquillement chez lui, à s'occuper de ses enfants et de ses enfants, mais non, il s'est lancé dans cette entreprise pharaonique pour l'époque, avec quand même, je précise, une vision, alors on dirait maintenant paternaliste peut-être, de la manière dont il employait les ouvriers. Il y a eu très très peu d'accidents, contrairement à des grands chantiers, très peu d'accidents. Et lui, pour attirer les ouvriers chez lui, il leur donnait des conditions sociales extraordinaires. C'est-à-dire que quand il pleuvait, les ouvriers étaient payés, ils étaient logés dans le coin où avait lieu le chantier. Quand ils étaient malades, c'est lui qui faisait venir un médecin pour les soigner. Donc, et puis il les payait comme relativement correctement par rapport aux travaux de ces régions-là, c'est-à-dire ceux qui employaient les ouvriers pour les moissons, les vendanges, etc. Lui, il les payait un tout petit peu plus. Il n'a pas fait que des amis. Mais il avait des conditions novatrices sociale assez étonnante.
Oui, parce qu'il y avait quand même jusqu'à 12 000 ouvriers, hommes et femmes, sur une durée de 15 ans.
Oui, alors lui, il disait 12 000 ouvriers, il est du midi, hein, donc il disait pas toujours.
Il est un peu exagéré.
Il exagérait, ce qui avait l'art d'agacer Colbert, qui lui avait envoyé un dénommé monsieur Lafeuille pour pouvoir contrôler ce que racontait Riquet, parce qu'il avait qu'une confiance limitée. Et d'ailleurs, plus le temps passait, moins Colbert a été, sympathique, on va dire comme ça, à l'égard de Riquet. Il s'en méfiait terriblement, alors que Riquet n'avait qu'une idée, c'était de terminer correctement son canal. Et un petit peu de mésentente, peut-être de jalousie, je ne sais pas, entre les deux hommes.
Oui. Face à ce grand succès, Monique Dolin-Dufresnel, vous avez dit tout à l'heure que Pierre-Paul Riquet était propriétaire du canal d'Entre-deux-Mers et qu'après, c'est revenu à sa famille. Les revenus des navigations sont parvenus donc à sa descendance. Cette situation n'a pas duré puisque vous nous avez dit qu'à la Révolution, ça a été la fin. Et c'est aussi à cette époque que le canal des Deux-Mers est devenu le canal du Midi.
Oui, parce que il s'appelait le canal royal des Deux-Mers. Alors, le mot royal, évidemment, la Révolution écorchait les oreilles, donc on l'a appelé canal du Midi, et il est resté canal du Midi. Mais le nom que Riquet lui a donné, c'était canal royal des Deux-Mers. Voilà.
C'était beau.
Et après la Révolution, les descendants de Riquet ont récupéré des parts du canal que Napoléon avait distribué largement autour de lui, de manière à reconstituer le mieux possible l'entreprise du canal telle qu'elle était à la mort de Riquet. Je précise quand même que Riquet, lorsqu'il est mort, on dit toujours il est mort pas dans la misère, mais considérablement ruiné. Non, il était endetté. Et c'est vrai que ses successeurs ont mis 43 ans à payer les dettes du canal. Et à partir de 1723, le canal était une poule aux œufs d'or, a rapporté énormément d'argent aux descendants. Mais c'était il y a longtemps, évidemment.
Pour écrire ce livre, vous avez eu accès à des informations inédites sur Pierre-Paul Riquet, puisque cet ouvrage dont nous parlons ce matin fait presque 430 pages avec beaucoup de documentation. Est-ce que vous pourriez nous faire part d'une découverte qui montre que Pierre-Paul Riquet était un homme hors du commun ?
Alors, cet ouvrage est une réédition d'un livre qui est paru en 2012, mais réédition, revue, corrigée, augmentée, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle édition propre. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai fait un peu le tour des cousins que je connaissais, qui avaient des documents, et j'en ai trouvé un, parce qu'il y a deux branches de cousins qui descendent des deux petits-fils de Riquet qui ont eu de la descendance Riquet. Et il y a la branche dite de Caramand, la branche dite de Bon Repos, des cousins de la branche de Caramand, qui m'ont donné des documents sur la manière dont certains des descendants de Riquet ont administré le canal. Et j'ai découvert qu'il y en avait un qui était très ami de la reine Marie-Antoinette. Et au moment du mariage de son fils, donc nous sommes juste avant la Révolution, sur l'acte de mariage, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait la signature de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du futur Louis XVIII, du futur Charles X, des sœurs, des filles de Louis XV, donc des tantes de Louis XVI. Oui. Enfin, toute la famille royale a signé l'acte de mariage de l'arrière-petit-fils de Riquet, ce qui est quand même assez étonnant, j'avoue.
Ah oui,
outre
ça
le fait, évidemment, de voir des documents sur le canal, que j'ai trouvé pour la plupart aux archives du canal à Toulouse, qui est une mine sur l'histoire du canal.
Voilà, bah en tout cas, bravo pour ce travail passionnant. Merci Monique Dolin-Dufresnel.
Juste un mot, dire qu'aujourd'hui à midi, à la cathédrale Saint-Étienne, il y a une cérémonie à midi, donc en l'honneur de Riquet.
Très bien, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre-Paul Riquet, l'incroyable aventure du canal des Deux-Mers, aujourd'hui Canal du Midi aux éditions Sud-Ouest. Cet ouvrage du canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Bonne
merci
journée.
Beaucoup.
Au revoir, madame.
Merci, au revoir.